Maintenant, au niveau donc de nos districts, je prendrai ici plus particulièrement l'exemple du district Rhône-Méditerranée, Rhône et côtier méditerranéen. Pour cette mise en œuvre, nous avons eu deux préoccupations. Bien sûr, la préoccupation technique. Quelle approche technique choisir dans toute cette complexité, de façon à ce que l'on puisse non seulement avoir un résultat qui soit satisfaisant, mais aussi que l'on respecte ces délais très exigeants. Et quelle organisation avec les acteurs locaux ? Parce qu'il y a un souci, effectivement, d'avoir une participation, une appropriation de ce projet pour qu'il soit mis en œuvre au niveau local. Alors, au niveau de l'organisation, au niveau pour la France, il y a quelque chose qui est assez favorable, finalement, puisque nous avons déjà en place cette gestion par grand bassin, avec ces schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, qui sont des outils de planification qui existent déjà, qui sont donc un support tout indiqué pour la suite. Et puis, avec la mise en place de ces schémas et la loi sur l'eau, il y a eu donc un développement de la prise en charge de la gestion de l'eau au niveau local, avec beaucoup de structures qui se sont mises en place. Par exemple, ici, vous avez les schémas d'aménagement et de gestion des eaux qui vous sont figurés sur cette carte, qui couvrent une superficie non négligeable de l'ensemble du bassin, donc mis en place depuis la loi sur l'eau. Et plus précocement, il y avait déjà une démarche de contrat de rivière, contrat de lac, contrat de baie, qui s'était mise en place, qui sont une autre forme donc de gestion locale et qui couvre une surface également importante. Donc vous le voyez, il y a sur l'ensemble du bassin déjà un dispositif qui permet de traiter des problèmes, de se réunir pour arriver à trouver des modes de gestion, des modes de financement qui permettent d'avancer dans la gestion des eaux. C'est pour cela qu'on a saisi cette opportunité pour pouvoir compléter la démarche pour l'établissement d'état des lieux avec ces organismes qui possèdent donc une capacité d'expertise au niveau local et qui sont tout à fait aptes à apporter une contribution pour l'état des lieux. Donc le choix de notre comité de bassin, ça a été massivement de s'appuyer sur le savoir-faire, sur les connaissances de ces organismes pour nous aider à établir ce premier état des lieux. Alors, dans une première étape, il s'est agi donc de mener cet exercice d'évaluation du risque de non-atteinte des objectifs. Comment avons-nous fonctionné ? Nous avons utilisé, bien sûr, des bases de données qui sont présentes, qui sont disponibles au niveau du bassin. Il y a un système français qui est assez bien fourni de ce point de vue, dont les données ressemblent tout à fait à ce qui a été présenté par le collègue espagnol tout à l'heure. Et nous avons fait appel donc à cette expertise locale pour l'exercice d'identification des pressions dans l'état présent et pour également avancer sur l'évaluation des tendances et de l'état des eaux à l'horizon 2015. Ceci pour aboutir à déduire donc le risque de non-atteinte des objectifs en 2015. Donc un dispositif complémentaire, encore une fois, basé sur des données existantes, mais aussi sur l'apport des données des experts locaux, qui, bien sûr, dans certains cas, ont été amenés à actualiser des données parce qu'eux-mêmes travaillent de leur côté et ont pu injecter directement des données qui n'étaient pas encore dans les bases. Prenons un exemple assez rapidement qui se situe, bon, l'exemple n'est peut-être pas très bien choisi pour la région, il est complètement au nord du bassin, à la limite de la Suisse, et c'est donc en région de Franche-Comté, le bassin de l'Allan. Voilà comment se présente une unité de travail. Donc, au niveau de l'état des lieux, donc on a mis en place des groupes de travail qui se réunissaient par bassin versant et qui réunissaient des acteurs qui provenaient des services de l'État, qui provenaient des conseils généraux, par exemple, qui provenaient aussi des structures locales de gestion, donc des chargés de mission, techniciens qui connaissaient bien leur bassin versant. Et on leur a demandé de se mettre autour de la table pour traiter chacun des bassins versants qui composent l'ensemble de notre district. Depuis donc l'exercice d'identification des masses d'eau jusqu'à l'évaluation du risque. Donc on a donc l'exemple d'un bassin versant ici qui comprend 8 à 10 masses d'eau. Pour faire ce travail, donc nous avons bien entendu pris en compte l'état qualitatif des masses d'eau et également les pressions de pollution, des pressions de pollution ponctuelles, pollution diffuse, des pressions morphologiques également, hein, et par exemple les enrochements, par exemple tout ce qui atteint à la morphologie des cours d'eau, comme les extractions, hein, et également toutes les données biologiques, hein, indices poissons, différents indices biologiques qui sont présents dans les bases. Ceci nous a permis de sortir des cartes de travail que l'on a fournies à ces groupes de travail locaux, hein, et qui ont donné une première vision de l'état des pressions ou parfois des pollutions. Là, on reconnaît ici quelque chose qui a été fait sur des pollutions diffuses, sur un schéma, sur une méthode tout à fait identique à celle qui a été présentée tout à l'heure pour les nitrates. Un exercice un petit peu nouveau aussi nous a amené à donner une évaluation des proportions des différents types de pollution, de sources industrielles, urbaines ou de l'agriculture. Ici, c'est le cas des nitrates. Ceci a donné des éléments donc de réflexion supplémentaire, parce que pour la première fois, on donnait une proportion relative de ces différentes sources de pollution. Donc, ceci est le type de document qu'on a réalisé par bassin versant, hein, sur la base de données, par exemple, du recensement agricole, sur la base de données issues des redevances payées à l'Agence de l'eau. Alors maintenant, comment compléter ces données avec l'expertise locale? Là, nous avons, donc toujours dans ces réunions, demandé la réalisation d'un certain nombre de cartes qui positionnaient des éléments clés pour le raisonnement, par exemple la synthèse des pressions importantes. On a demandé aux participants de positionner les freins de prélèvement, les pollutions industrielles, les rejets, les zones où les cours d'eau ont été artificialisés, les zones d'incision du lit, dues par exemple à des extractions de granulats, les zones de pollution diffuse agricole, hein, toujours dans le respect aussi du principe, les étangs également, de la notion de pression importante, c'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas de recenser toutes les pressions, mais bien celles qui avaient un effet significatif sur les cours d'eau. Là encore, nous avons, je crois, une démarche assez proche de celle présentée tout à l'heure. Et puis, au niveau du scénario tendanciel, alors là, une difficulté, parce qu'on n'était pas en capacité d'obtenir de réelles modélisations. Donc, on a adopté une méthode assez pragmatique, toujours avec ces acteurs, en leur demandant de rassembler leurs idées pour essayer d'identifier quelles étaient les évolutions majeures qu'ils voyaient sur leur territoire. Développement de zones d'activité, éventuellement la mise en place d'infrastructures, ici d'infrastructures ferroviaires, de réaménagement de routes nationales qui peuvent avoir un effet, d'autoroutes également, de mise au gabarit de certaines infrastructures comme des ponts ou un canal pour passer donc pour faire passer des péniches de plus grand gabarit. Donc, je vais un petit peu vite. Voilà comment on a essayé de réaliser cet exercice de scénario d'évolution. Bien entendu, dans cette étape actuelle, on est en train d'essayer de compléter ces éléments avec des éléments avec des données sur les tendances qui sont extraites de différents documents. Mais ceci nous a déjà permis d'avancer dans l'évaluation du risque. Alors, pour pouvoir mener un tel travail avec les acteurs locaux, il nous a été nécessaire, bien entendu, de fournir un élément, une méthode qui puisse être disponible pour tous et qui soit quand même plus simple que tous les documents dont je vous ai parlé tout à l'heure. Pour cela qu'on a donc édité, pour l'ensemble du district, une note méthodologique dans laquelle on a consigné tout l'ensemble de la démarche pour réaliser cet état des lieux. Et nous avons, par exemple, utilisé des grilles pour analyser non seulement la situation courante, mais également les tendances. On a l'exemple ici de la pollution par les matières organiques. Nous avons fourni des grilles dans lesquelles étaient remplies déjà l'état actuel. La couleur jaune signifie quel était l'état actuel de la masse d'eau vis-à-vis de la matière organique. Et ensuite, nous avons par un système de croix, très simple, à trois niveaux, demander aux acteurs locaux d'estimer la provenance de cette pollution selon les différentes origines. Et puis pour estimer la situation en 2015, nous avons fait une démarche un petit peu inverse, puisque nous avons demandé d'estimer quelle pouvait être l'évolution des pressions et d'en déduire quel serait l'état futur des eaux. quelque chose d'assez pragmatique, finalement, lié, vous le voyez, à la capacité d'expertise locale, mais rattaché quand même à un système d'évaluation de la qualité des eaux, hein, qui a fourni, par exemple, la couleur jaune ou l'état de la masse d'eau en 2003. Donc, excusez-moi, j'ai fait une fausse manœuvre. Est-ce que je peux revenir en arrière ?